au fil de l'eau revient sur cette antenne radio-judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez. Alors aujourd'hui, c'est une émission particulière, un peu schizophrène, un petit peu... C'est Marc qui parle à Paul. Voilà, donc Marc Paul, Bèze, 1951, taureau, profession, arpenteur d'idées. On est parti pour la vie de pirate.
Quand on est pirate, il faut être acrobate. Et savoir grimper sans se casser le nez. Oh is, oh is, oh eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte la vie de pirate. Quand on est pirate, pas besoin de...
Alors, je vais faire appel à mon miroir. Vous connaissez cette... cette fable des Blanche-Neige. Et alors là, c'est pas Blanche-Neige. Oh miroir, es-tu là ?
Marc Paul, je suis votre miroir, qu'avez-vous à lui dire ?
Oh, le ton grand, qu'est-ce que j'ai à dire au miroir ? Alors, d'abord, au fil de l'eau, j'ai embarqué à 14 ans sur un automoteur, la famille Jacob, de Moterne, voilà. Mon père voulait me structurer, comme il disait, et à l'époque, on avait la possibilité de travailler très jeune. Et il pensait que ces 2 mois d'été sur un métier que je ne connaissais pas et qu'il ne connaissait pas non plus, allaient me mettre du plomb dans la tête et que j'allais pouvoir travailler. Et là, j'ai découvert un monde magnifique, la batellerie. Liberté, travail dur, amitié des hommes, je dis bien amitié des hommes, une sorte de bienveillance dans la rigueur, mais une sorte de bienveillance parce que c'était familial. Certes, c'était pas facile, car ces automoteurs de la compagnie Navigation Rhénane, qui s'appelait la CFNR, à l'époque, on ne voyageait pas beaucoup, on descendait la potasse, on chargeait la potasse, quai Dunkerque, voilà, et on la descendait en Anvers. On remontait à vide de Anvers jusqu'à la Roure, et là on chargeait de la fine de charbon pour aller à la Scarlette, où on fabriquait des boulets. À Strasbourg, toutes ces installations ont disparu, mais sachez une chose, c'était des métiers très durs, car la potasse, ça brûle, c'est dur à charger, parce qu'on est obligé dans la cale, ça rentre partout, dans le nez, partout, c'est terrible. Et en plus, il fallait laver, toujours laver, parce que la potasse, vous croyez qu'il n'y a plus de traces sur les plats-bords, sur toutes les superstructures, et dès que ça sèche, vous voyez à nouveau les traces blanches du sel. C'est incroyable, la potasse, la puissance que ça a. Par contre, un autre avantage, on avait des jeans parfaits, parce qu'on les lavait légèrement avec un peu de potasse, pas trop, parce que si vous mettiez trop de potasse, il n'y avait plus de jeans, mais et ils devenaient souples, et ils devenaient d'un bleu horizon magnifique. Et à l'époque, si on pouvait avoir des jeans avec des bleus horizons, je peux vous dire une chose, c'était quelque chose. On déchargeait à Anvers, on rechargeait, il fallait renettoyer tout, voilà. Parce que quand on arrivait à la Roure, il y avait des inspecteurs des houillères qui vérifiaient si le bateau était propre. Et là, on chargeait de la fine de charbon. Et là, on devenait noir, tout noir. Plus facile à nettoyer. Et on remontait. Alors l'été, ça va, mais si vous faites ça en hiver... avec de l'eau qui est à 4, 5, 6 degrés. Je peux vous dire une chose, c'est des métiers très très durs. Et le réconfort de ces métiers, ben, c'était l'humain. Il y avait une humanité sur ces bateaux que personne ne peut comprendre. Alors, je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais il y avait une humanité sur ces bateaux qui était extraordinaire. Et bien sûr, il y avait le repas, qui était le point essentiel de la chose, qui était le partage. Et bien sûr, en tant que mousse, tout de suite, on me demandait de cuisiner pour le bord. Donc, je faisais à manger pour 3 ou 4 personnes. Voilà. Et là, comme c'était la dinette, que tout était partagé, vous n'aviez pas intérêt de louper le rôti de porc ou la soupe, car vous aviez tout de suite la sanction terrible. Par contre, grâce à Tante Marie, le livre de cuisine extraordinaire qui était publié chez Hachette, et c'est ce qui m'a mis à la lecture. Car je n'étais pas très passionné par la lecture, mais lire des livres de cuisine, c'est extraordinaire. C'est court, c'est écrit simplement, tout est compréhensible, l'imaginaire fonctionne, car vous voyez les oignons suppurés, vous pouvez imaginer comment on peut écraser l'ail, comment on peut saisir, comment on peut faire bouillir, comment on peut mettre la vapeur. Et d'un coup, vous voyagez indirectement à travers la casserole, dans un espace très réduit, parce que l'espace était réduit. Et c'était un moment d'évasion à la cuisine, parce que j'étais à l'abri, pas aux intempéries, au chaud. Il y avait des bonnes odeurs. Et si j'avais réussi mon plat, l'équipage était heureux, donc on me foutait la paix. Et j'ai fait ça pendant un certain temps, car je suis resté presque 14 ans là-bas à la compagnie, où après je suis parti sur le poussage, je suis reparti sur d'autres choses. Mais je n'ai jamais voulu reprendre le cycle scolaire, et je suis devenu ce qu'on appelle un batelier. Alors, cette émission au fil de l'eau, c'est une forme de reconnaissance à tous ces métiers. Cette compagnie qui est partie, qui n'existe plus, qui est Jacques Couteau, qui s'est installée au Luxembourg pour des raisons fiscales. Les automoteurs qu'on ne voit plus, du plan Marshall, car ça a été la reconstruction et dans le plan Marshall de cette activité et de ce cœur de poumon de l'Europe, le Rhin, qui a amené toutes ces marchandises sur Strasbourg pour la reconstruction, pour le développement des années 50, 60, 70, 80, les Grandes Glorieuses, qui a été aussi le poumon de la Moselle et d'une partie de Thionville, de la sidérurgie, car on montait à une époque avec les poussages du coq pour faire de l'acier et on redescendait des pales planches qui étaient sorties des aciéries pour livrer le monde entier. Et c'est des choses, quand je me promène aujourd'hui sur le port et que je regarde un peu toutes ces infrastructures qui sont délaissées. La rue de Dunkerque, pour moi, c'était une rue d'activité énorme. Il y avait des wagons de potasse, il y avait des wagons de marchandises, il y avait les Suisses, il y avait des bateaux qui étaient là, il y avait les gens qui... Et là, on est une rue solitaire. Et au bout, il y avait le collège de la navigation rhénane, qui était l'école moderne qui formait tous ces jeunes bateliers à devenir capitaine d'automoteur ou de pousseur, où il y a eu des générations qui ont été faites, et j'ai eu la chance, moi, de passer ma patente et de pouvoir faire cela. Et cette émission, c'est comme une confession, c'est que je n'ai pas mesuré le métier que c'était, car j'en avais un peu honte. Et j'en avais un peu honte à cause d'une émission de télévision qui avait un feuilleton qui s'appelait Le Joyeux Marinier, voilà. Et tout le monde connaît cette émission sombre, lugubre, ça, car il ne faut pas confondre marinier et batelier. Marinier, c'est sur des canaux. Batelier, c'est sur des fleuves. C'est totalement différent. Et il y a une autre notion de ça, et la batellerie a de très très beaux histoires, parce qu'on ne s'imagine pas aujourd'hui, avec la facilité de l'évolution, les radars qui permettent de naviguer la nuit, la motorisation qui permet d'avoir la souplesse, les gouvernails qui ont changé, parce qu'on a des flanking, gouvernail avant, gouvernail arrière. Mais si on remonte juste avant guerre et après guerre, il y avait les chalands, où un remorqueur de la CFNR tirait entre 4 et 6 chalands. Ça veut dire, entre le remorqueur et le dernier chaland, il y avait plus d'1 kilomètre de câble. Et ils étaient obligés de sinuer dans le Rhin qui était tortueux. C'était des experts de la navigation, des gens qui avaient une capacité, qui avaient une anticipation, qui avaient un ensemble et qui connaissaient le fleuve. Et connaître un fleuve, c'est connaître son lit. Connaître les bancs de sable, les talwegs, connaître les épis, toutes les difficultés par rapport aux eaux, parce que la hauteur des eaux est importante. Alors, bien sûr, à bord, on écoutait de la musique. Et on écoutait, bien sûr, des belles musiques, parce qu'à l'époque, il y avait les radios libres, chez Welling Radio, et un artiste particulièrement qui m'a marqué, John Mayall. Eh oui, on sent les notes du Missouri, et pourtant c'est pas le Missouri, c'est pas Tom Sawyer, mais bien sûr ça m'a fait rêver. Alors, au miroir, as-tu une question à me poser ?
Pourquoi vous avez quitté la batellerie ?
Tiens, ça c'est une bonne question. Pourquoi ? Ah, je pense que c'est encore une histoire. C'est une histoire, l'homme du Picardie, parce que c'est le moyen, le feuilleton, c'était l'homme du Picardie. Ben, j'avais un peu honte de mon métier. Ça veut dire que mes copains, comme on travaillait, alors à l'époque, on travaillait 7 jours sur 7 sur le poussage, 7 jours de repos, 7 jours à la maison. Je supportais de plus en plus mal la vie de mon métier de batelier, voilà, que je n'assumais pas tout à fait, où j'étais très fier d'être à bord, hein, j'étais très heureux à bord. Mais quand je revenais à terre, par rapport au regard des autres et de ce feuilleton qui a été catastrophique pour moi, je n'aimais pas le regard des gens. Et je cherchais à faire un autre métier, voilà. Et j'ai eu la chance de rentrer faire de la représentation. Je pensais que c'était plus noble, voilà. Et je vais quitter la batellerie. Mais à miroir, as-tu une autre question ?
Avez-vous une histoire ou une anecdote à nous raconter ?
Oh ! Alors plein, alors je vais en raconter une. Du reste, c'est lié à la chanson suivante. Je suis à bord seul dans la timonerie. Voilà, du pousseur, tout se passe bien, et on écoute la radio, bien sûr, parce qu'on navigue et on écoute la radio. Et il faut imaginer un pousseur, ça a peut-être 18 mètres de long, les barges ont 90 mètres, donc vous avez 180 mètres plus 18 mètres, vous êtes sur un convoi qui dépasse les 200 mètres, et vous êtes sur la Moselle. Certes, on était en fin du mois d'avril et il y a du débit, parce qu'il y a eu la fonte des neiges dans les Vosges, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, ce qu'on appelle, on n'est pas dans les hautes eaux, mais il y a de l'eau, il y a du fort courant, il y a de l'eau. Voilà. Je naviguais depuis un certain temps, hein, je connaissais par cœur ce fleuve, et arrive une chanson, les Rolling Stones, et là je m'enflamme. Je m'enflamme, je me crois au concert, je tape sur le pupitre, je tape sur les... Alors on n'avait pas des barres, on avait des flinkings, hein, des espèces de grandes... Deux barres, une barre supérieure, une barre inférieure, qu'on bougeait, c'était tout hydraulique et tout, tout était ça. Et là je suis sur mon fauteuil, je tourne, je fais le con et tout. Et il y a le mécano qui est avec moi. Et le mécano il se retourne et dit « Marc !» Et je vois que j'ai mal engagé, que j'ai laissé le bateau partir, le temps que je le redresse, je l'ai laissé partir. Et je sens que ça va être très très dur à la pile de pont. Et j'essaye de redresser, j'inverse les machines pour donner un effet, mais le courant me presse, parce que les 210 mètres, le courant m'a pris sur toute la longueur, donc il me presse vers la pile de pont. Et pour redresser, j'avais qu'une solution, c'était de mettre la barge de devant dans la berge pour passer la pile. Donc je suis en situation catastrophique, donc j'appuie sur le bouton alerte. On avait un bouton à bord pour dire alerte, parce que j'ai peur que le convoi se disloque, hein, que ça parte en sucette. Voilà. Je suis dans cette manœuvre-là, désespéré, transpirant et tout, et tout. Et on avait des sièges, des chaises avec un piston, vous savez, c'est où on pouvait monter la hauteur. Et je ne sais pas, peut-être avec le pied, je tape sur la petite barrette qui fait descendre le siège et je disparais. C'est-à-dire que le siège se met à la position la plus basse et je me retrouve sans visibilité et tout, et tout. Et là, le miracle. Le miracle. On passe le pont. On passe la pile de pont sans la toucher, à 10 cm. On arrive à redresser la berge. On ne tape pas le cul du pousseur. On ne sait même pas aujourd'hui comment j'ai fait. Et bien sûr, tout l'équipage est remonté en haut. Et bien sûr, je me suis fait engueuler terriblement parce qu'on aurait pu avoir. Mais d'un autre côté, on a bu une bonne bière parce qu'on a dit que ça aurait pu être une catastrophe. Alors c'est pour ça. Satisfaction. Ça, c'est plein de souvenirs. Voilà, c'est l'époque rebelle. On est juste dans les merveilleuses années qui vont déclencher 68, 69, 70, les plus belles années. Voilà. Alors, Miroir, as-tu une autre question ?
Avez-vous une autre anecdote ?
Vous êtes friand de mes anecdotes. Alors, j'en ai une autre, oui, j'en ai une autre que je vais te raconter, qui est un peu plus moins émotionnelle. Il y a un examen qui est très important après 7 ans d'exercice de ce métier. Tu dois passer la patente, qui est un examen très difficile, pour pouvoir naviguer sur le Rhin. Et la patente se passe en plusieurs séances. Alors d'abord, j'ai un CAP de batelier, parce qu'au Collège de Navigation Rhénane, j'ai passé un CAP. Voilà, après, la grande étape pour être capitaine, capitaine stagiaire et tout, c'est la patente. Et c'est compliqué, la patente. C'est pas facile, il faut que tu connaisses le Rhin, tout ça, les questions, tout le monde en fait. Et moi, je naviguais sur la Moselle, donc j'étais un peu inquiet et tout, voilà. Bon, j'avais de la théorie, mais de la pratique du Rhin, j'en avais très peu. J'avais beaucoup de pratique de la Moselle et j'avais très peu de pratique du Rhin. Et je redoutais cet examen. Parce que le miracle a voulu que ça se passe bien, voilà, je l'obtiens. Donc, bien sûr, on fête. Ça, c'est normal qu'on fête cela. Et à l'époque, il y avait un restaurant qui aujourd'hui a un autre nom, il s'appelait Les Albardes. Voilà, Kevin Viller. Et j'invite mes copains aux Albardes pour fêter mon examen, vu que j'étais les résultats étaient au Palais du Rhin, voilà, à la Bourse. Là, je suis reçu, j'appelle sur le téléphone normal, pas le téléphone. Hein. La voiture monte à Guenot, et le soir, on se retrouve aux Albardes. Et on est un peu joyeux. Hein. À l'époque. La consommation alcoolique était bien présente. Et bien sûr, on boit, tout ça. Et pour marquer le coup, d'une façon, non, je commande une bouteille de champagne, un cordon rouge, au restaurant, voilà, tac, on prend la première bouteille, on paye. En plus, la deuxième, je dis, écoutez les gars, on va aller la boire au bord du Rhin, on va aller le boire au bord du Rhin pour fêter ça. Alors, on est allé à l'écluse, on a pris la voiture, on est allé à l'écluse sud, hein, parce que vous savez quoi, l'écluse nord, c'est au sud de Strasbourg, mais parce que on suit le cours du Rhin, donc voilà, à l'écluse sud, près du port pétrolier. Là, on passe devant le quai Jacques Couteau, on se met au bout, juste avant le quai, juste à l'embouchure, parce que quand on quittait le port, là, à l'époque, le Rhin n'était pas canalisé jusqu'en bas, donc on rentrait vraiment sur le Rhin, et on sonnait la cloche sur le bateau, et on disait « bon voyage hein. ». Voilà, c'était une tradition. Donc, on est là, on boit le champagne, et on est heureux, hein, on est voilà, heureux. Et on est glauque, je jette la bouteille à l'eau, et là, arrivent les douanes. Parce que les douanes nous avaient repérés. Vous avez repéré, puis qu'est-ce qu'ils foutent ces gars-là et tout. Voilà. Donc on était à 5 dans une R8, voilà. Et là commence une nuit d'ivresse. Parce qu'on était chaud, voilà. Les douaniers commencent, veulent nous fouiller, voilà. Parce que là, ça se dégénère. Et on a terminé à la nuée bleue, tous à la nuée bleue, au poste de police, en salle de dégrisement. Voilà, petite anecdote de batelier. Alors, est-ce que Miroir, t'as autre chose ?
Est-ce que vous avez, par exemple, encore une autre anecdote ?
Ah, Miroir, tu es friand d'anecdotes. Non, j'ai surtout un regret. J'ai quitté cette batellerie par rapport à une relation personnelle de comportement. Mais ça m'a toujours hanté et j'ai eu l'occasion souvent de naviguer sur les fleuves parce que c'est une de mes passions. En kayak. J'ai fait une très belle expérience. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai voulu faire la descente de la Loire en kayak. Voilà. Un espèce de souvenir par rapport à mon métier, par rapport aux autres métiers, comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais partir en kayak et je vais faire en kayak. Alors, je n'ai pas fait du kayak, j'ai fait du canoë. Différence entre le kayak et le canoë. Hein, voilà, un canoë, voilà. Un semi-rigide, voilà. Je suis parti un petit peu comme à bar-tabac et je me suis aperçu que la Loire était un fleuve très difficile à naviguer, très complexe, surtout avec les lâchers d'eau pour les deux centrales atomiques qui font le refroidissement. Et un jour, je m'arrête à Sachon, voilà, où il y a du Chinon, un très bon vin, hein, voilà. Je cherche, parce que j'ai froid, je cherche ce qu'on appelle un Airbnb hein, pour me loger, et je tombe chez un vigneron. On parle, un flacon, on continue à parler, deux flacons, on continue à parler, trois flacons, voilà. Ça part dans une soirée d'ivresse, vers les 4h du matin, on se couche, le lendemain matin, il me dit, écoutez, je vous ramène, parce que moi j'ai du boulot aussi. On avait un peu, là, comme on dit, la tête en compteur à gaz. Et j'embarque sur le bateau, sur mon kayak, voilà, j'équilibre mal mon kayak, je suis entre les brumes, et il y a un pont, je sors, il y a un pont, et il y a des jeunes qui me font un signe sur le pont. Et d'un coup, je dis, tiens, j'ai pas pris la navigation sur mon téléphone, et je dis, bah, peut-être c'est là où il faut passer. Et en fin de compte, ces gamins, ils m'ont fait une farce, ils m'ont emmené sur une écluse de passage immergée. Donc j'ai touché du devant jusqu'à l'arrière, donc le kayak s'est ouvert en deux, j'ai sombré, et on m'a récupéré 2 kilomètres après, les pompiers et tout. J'ai eu beaucoup peur, parce que je suis descendu et j'ai fait le bouchon, hein, au fond, remonté, pour avoir perdu toutes mes affaires. Et c'est là vraiment la dernière expérience du fleuve que j'ai fait. Et je me suis dit en moi, tu vois, tu les as reniés, ils te l'ont fait sentir. Voilà. Eh bien, miroir, c'est la fin de cette émission. Je me remercie. On va finir avec le générique. Très belle chanson, le générique.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier, martelé au rythme d'un moteur régulier. Un bruit répétitif aux effluves de gasoil. Et ça cogne du cœur jusque dans la cale.